Bienvenue dans Bande Sonore, le podcast du web documentaire Bande à part. Une série de portraits audio de celles et ceux qui décident de vivre autrement. Habiter, apprendre, se définir autrement, autrement mais ensemble. Dans cet épisode, moi, Malo, je suis parti à la rencontre de Jo. Jo vit en squat. Voici son histoire.
Moi, c'est Jo, j'ai 38 ans et je vis à Montpellier. Le mouvement squat, c'est ma façon de faire bande à part. J'ai connu mes premiers squats vers 19 ans à Tours. J'étais en licence de géo et mes parents, qui roulaient pas sur l'or, n'étaient pas un gros soutien économique. C'était des amis d'amis assez punk qui cherchaient un lieu où crécher. Dans mes souvenirs, ils avaient un squat qu'ils appelaient la Romaine. Ils l'appelaient comme ça parce que c'était une grande maison avec des colonnettes, un peu villa. La première fois que je suis allé dans ce squat, j'ai trouvé ça très marrant. Aller contre la propriété privée, occuper collectivement des logements abandonnés, il y a l'excitation de faire quelque chose de très clairement interdit. Je voyais déjà l'étendue des possibilités dans une maison où on peut vraiment bricoler sans avoir peur de perdre sa caution. Je me souviens aussi du bordel, de la saleté, c'était souvent assez crade, dans des bâtiments de base un peu craignos. Il y a aussi la difficulté d'avoir une organisation stable, de partager plus qu'un simple logement. Il y a eu des tentatives à Tours de faire des lieux d'échange, des zones de gratuité, mais ça demande pas mal d'énergie. Et souvent, ça capote. Le squat, c'est avant tout une façon de se loger quand t'as pas de fric. C'est ça qui réunit tout le monde à la base. On sait aussi que c'est moins risqué d'ouvrir des lieux à plusieurs. Dans la mouvance squat, quasiment tout le monde a entre 18 et 35 ans, pas de thunes, tous politisés à gauche, voire très à gauche, et le plus souvent libertaires. Après, c'est sûr qu'il y a un profil. Tout le monde ne devient pas squatteur. La caricature du squatter, c'est souvent le punk à chien ou l'anarchiste vegan très remonté. En vérité, c'est bien plus divers et il y a des différences entre les pays, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a une certaine distance avec Monsieur Tout-le-Monde. Au sein des réseaux squat, il y a beaucoup de mouvements. Les squats se baladent entre les grandes villes, mais aussi entre plusieurs pays européens, depuis la France et l'Espagne jusqu'aux Pays-Bas. Il n'y a pas tant de monde que ça dans le milieu, donc forcément, on se croise aux mêmes endroits. Il y a les manifs, les réunions d'orgas culturels, les AG étudiants, par exemple. Les squatteurs fréquentent pas mal la fac, vu que ça offre des salles de réunion gratuites. Ils sont tous impliqués dans les mouvements politiques, mais aussi culturels. Il y a les concerts, les fêtes, les bars associatifs, toute la partie moins officielle de la vie étudiante, on va dire. Mes premières expériences d'ouverture de squat à Tours ont permis de comprendre que c'est vraiment possible de squatter. J'étais pas directement impliqué, j'y ai pas habité. Mais j'ai plusieurs fois aidé en renfort à des ouvertures, pour des travaux, des permanences, des soutiens pendant les opérations de police. Ou en tout cas, j'avais les infos. Un hiver, avec des copains étudiants, on a squatté une partie de la fac de Tours pour loger des familles qui étaient dans la rue. C'est pas un squat durable, mais plutôt une réutilisation de la méthode. Une façon de faire pression pour héberger des familles entières. On s'est évidemment fait expulser, mais le groupe a finalement ouvert un ancien hôtel dans le centre-ville. Après, j'ai continué à aider à droite à gauche, mais la première fois où j'ai vraiment logé en squat, c'était à Barcelone. Le déclic, ça a été ma rencontre avec Lola, une Valencienne dont je suis tombé amoureux. J'ai logé chez elle à Barcelone, mais on a rapidement eu le projet d'ouvrir un squat vu que les loyers à Barcelone sont hors de prix pour des apparts de la taille d'un cagibi. Elle connaissait bien ce milieu et on a formé une petite équipe. Le squat à Barcelone, c'est une institution. Il y a même une oficina de la Ocupación, c'est-à-dire un bureau du squat qui prête du matos, met les gens en contact, coordonne un peu la solidarité. Par exemple, il y a un numéro d'urgence en cas d'expulsion pour réunir un maximum de soutien devant les squats expulsés et faire pression sur les flics. On a ouvert Camfédé vers 2010, après plusieurs tentatives dans des bâtiments vides. Camfédé, ça veut dire « maison de Federico » en catalan. Le nom du chat des voisins qui squattait déjà là avant qu'on arrive. C'est le nom qu'on a mis sur la boîte. Pour nous envoyer une lettre, fallait la faire au nom du chat. Le bâtiment appartenait à un fonds d'investissement et on l'a surveillé pendant quelques mois sans que personne rentre dedans. L'idée, c'était de viser un bâtiment qui ne soit pas un particulier, de tacler la spéculation immobilière au passage. Pour rentrer, on est passé par le toit-terrasse avec une grande échelle et des pieds de biche. C'est plus discret que d'ouvrir la porte d'entrée en acier avec une disqueuse au milieu de la nuit. Si on te prend sur le fait, par contre, c'est effraction et tu passes direct au pénal. On est monté à deux par en haut, on a barricadé la porte et on a attendu 3 jours, volet fermé, à lire à la frontale et à jouer au snack. 3 jours, c'est le délai au bout duquel c'est considéré comme ton logement officiel. Au bout de 3 jours, on a disqué la porte d'entrée pour pouvoir rentrer. Ça a paniqué les voisins. Le fonds a mis des années à réagir. On se disait même qu'ils avaient oublié que le bâtiment leur appartenait. Après la première frayeur, on s'est bien entendu avec les voisins qu'ils ont même filé le wifi et l'accès à l'eau, bon, au bout de quelques années. Après, les bonnes relations de voisinage, c'était aussi dû au quartier Carmelo. C'est un quartier d'immigrés dans les collines, beaucoup de Sud-Américains. Le quartier était un peu à l'arrache, donc on n'étonnait pas tant que ça. À Barcelone, il y avait quelques QG pour les squatteurs, par exemple la librairie anarchiste Rosa des Focs. Il y a aussi les fêtes de Gracia, l'équivalent de la fête de la musique, où on retrouve chaque année toute la faune des squatteurs. On monte sur les petites places des scènes de bric et de broc sans autorisation, en parallèle des places officielles. Les groupes font souvent de la musique punk ou garage, des trucs un peu sales, tu vois. Moi et un de mes co-squatteurs, on a tenu des années un stand de bikini, des sortes de croque-monsieur au chorizo vegan pour financer la lutte. Faut aussi savoir qu'il y a des types de squats différents. Il y a les squats publics et les squats d'habitation. En Espagne, on dit centres sociaux ou foyers. Les buts sont différents, donc il n'y a pas forcément la même dynamique, même si les deux sont pas hermétiques. Dans les foyers, tu y habites, donc souvent c'est plus petit et l'ambiance dépend vraiment de l'envie des habitants. Les centres sociaux, tu peux vivre dedans, mais c'est pas la vocation première. C'est des lieux de fête ou de mobilisation politique, donc c'est plus facilement le bordel s'il n'y a pas d'organisation. D'ailleurs, il n'y en a pas souvent. Vivre en squat, c'est super stimulant, mais ça aussi, c'est défaut. Tu deviens à la fois plus libre et moins en sécurité qu'un locataire. Plus libre, parce que tu peux vraiment faire ce que tu veux. À Barcelone, je m'étais fabriqué une chambre dans un grand sous-sol à flanc de colline qui donnait sur un jardin. J'avais monté des parois avec des vieilles portes et des planches, fabriqué un atelier, une mezzanine, et j'avais remis en état le petit jardin de la terrasse. Le mauvais côté, c'est que je savais pas si je pourrais rentrer chez moi en rentrant de vacances. Il y a toujours l'incertitude de se faire déloger, de perdre toutes ses affaires. Ça empêche un peu de se projeter, de faire des aménagements durables, vu que tu peux être expulsé d'un jour à l'autre. Moi, j'ai eu la chance de jamais me faire déloger en direct. Les expulsions, ça peut être très violent. On est en situation irrégulière, donc la police sait qu'elle peut se permettre d'être plus brutale. Mes mauvais souvenirs du squat, c'est des expériences que j'aurais aussi bien pu vivre en coloc ou en collectivité. C'est des désaccords sur l'hygiène, sur la participation ou la responsabilité de chacun. On pouvait évidemment rien attendre du proprio sur les travaux à faire, et les premières années, on n'avait pas l'eau courante. On allait la chercher à la fontaine, avec un chariot et des bidons, et tout le monde avait l'impression d'être le seul à le faire. Pour des anarchistes, c'est dommage de ne pas être capable de s'organiser. On était obligé d'instaurer des grilles, des tableaux, pour que tout le monde se bouge, sinon ça se faisait pas. Ce qui est marrant par contre, c'est qu'on était 3 squats à s'approvisionner sur la même fontaine. On faisait la queue pour remplir les bidons. Au final, c'était pas si difficile. L'eau de la douche servait à tirer la chasse d'eau, on faisait la vaisselle avec le minimum d'eau, et on se douchait à la bouteille. Bon, c'est sûr que moi, je me suis toujours douché à l'eau froide, donc il y a moins de maintenance, c'est plus simple que d'avoir à faire chauffer sa gamelle. Quand il pense, c'est dans ces situations qu'on mesure nos vrais besoins. Quand tu vois, par exemple, combien de litres consomme un Français moyen, ou pire, un Américain, bah, c'est sûr que nous, on faisait un peu gaffe à l'utilisation. Tu laisses pas couler le robinet, vu qu'il n'y a pas de robinet. J'ai pas vraiment vécu un sentiment de précarité ou de privation, au contraire. J'avais pas de loyer à payer, de la nourriture gratuite en abondance avec les plans récup, et pas besoin de bosser toute ma vie pour payer les factures. J'allais bosser en France de temps en temps, juste suffisamment pour pas me sentir pauvre du tout. J'ai adoré vivre dans cette maison, rencontrer les gens du quartier, faire sécher mes bananes sur le toit terrasse, voir grandir le petit citronnier de mon jardin. Barcelone, c'est si cher que quand t'as pas de fric, t'es loin et dans des petits apparts. Nous, on avait une grande maison sur la première ceinture de colline, protégée de la pollution, du bruit et de la lumière, mais pas non plus trop loin du centre-ville. De manière générale, t'as le temps de vivre, bidouiller, lire au soleil, faire la sieste ou la cuisine. Un jour, on a reçu un arrêté d'expulsion. Ça faisait un moment que je voulais rentrer en France et je venais de rompre avec Lola, donc j'en ai profité pour m'éclipser. Quand j'ai fait mes affaires, je pensais partir pour une saison ou deux, mais en fait j'ai été appelé pour 2 trucs et je suis parvenu tout de suite. J'ai revu cette maison que 4 ans après. Je suis passé un peu comme un pèlerinage pour voir si je pouvais refiler un jeu de clés qui me restait. Le squat était toujours habité, mais il n'y avait plus personne que je connaissais. Ils m'ont proposé de jeter un œil, j'ai tout retrouvé comme si rien n'avait changé. Le bureau, ma chambre avec ses parois de briquet de broc, le matelas, le duvet que j'avais laissé, même le sac poubelle du dernier ménage que j'avais fait avant de partir. Il y a plein de gens qui sont passés par cette chambre après moi, mais je pense que personne d'autre y a vraiment laissé sa patte. Je suis plus en squat aujourd'hui, mais c'est pas dit que je retente pas l'expérience. Le squat, ça me parle, c'est mon mode de vie, je me vois bien y retourner.
Bande sonore, c'est fini pour aujourd'hui, mais retrouvez cet épisode et d'autres encore sur bandeapart.info et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Merci beaucoup à Jo pour son histoire et à Léon Mujica pour avoir prêté sa voix en studio.